Quatrième étape, en route vers l'Éden.
Ces mythologies que nous venons d'explorer à la source des religions anciennes ont laissé place pour une part à la religion chrétienne. Et si nous nous rendions désormais au paradis? Nous avons beaucoup parlé de l'enfer, maintenant nous pourrions aller voir le paradis, ce que ça donne dans les arts plastiques. Rendons-nous donc au musée Rodin à nouveau pour voir ce que Rodin nous propose en matière de paradis terrestre.
Épisode 9. La main qui façonne et détruit, ou comment Rodin grave dans le marbre son paradis terrestre.
Chère Isabelle, quel plaisir de vous retrouver dans le rez-de-chaussée du musée Rodin face à cette œuvre que je vous demande de nous décrire.
Alors l'œuvre représente une main. Une main en marbre, donc c'est une œuvre qui est relativement monumentale, qui doit faire un mètre carré, à peu près un mètre cube. Et de ce gros morceau de marbre mal dégrossi, émerge une très grosse main, une main droite, qui est très finement polie, détaillée. On en aperçoit tous les muscles, les tendons. Il y a plus de vérité dans cette main-là que dans notre propre main à nous. Si on la met en comparaison, on trouve que sa propre main est bien triste et bien plate. Elle n'a pas tous ces tendons et ces détails que Rodin nous montre ici. Et à l'intérieur, que tient cette main? Elle tient un corps.
Ève.
Et
c'est Ève, la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui chasse Ève du paradis.
Ah, je ne sais pas.
Moi, c'est ce que je vois dans cette main.
D'accord.
C'est peut-être une interprétation.
Ou alors, il est en train de la façonner. Elle sort de cette masse informe qui est au-dessus d'elle.
Ah, donc vous y voyez non pas la punition, mais la sculpture.
Pour la création, moi, je vois la création.
Je suis tellement obsédée par la culpabilité que moi, j'en étais déjà à la faute, alors qu'elle n'est même pas encore née, et déjà, je la crois coupable.
Moi, je trouve ça très intéressant. Je m'occupe de médiation. Et vraiment, mon souci, quand on parle d'une œuvre, c'est toujours d'essayer de ne pas l'enfermer dans une lecture unique. Donc,
vous
je trouve ça
raison.
Très bien.
Vous avez raison.
Que vous ayez votre lecture à vous, qui a une certaine richesse, et puis d'autres personnes peuvent voir d'autres choses dedans. Ça prouve que l'œuvre, elle est complexe, elle se donne à lire différemment.
Donc il la façonne, c'est le moment où il la façonne. Oh, c'est magnifique, la naissance de la première femme. Et en même temps, c'est terrifiant, le pouvoir de cette main.
Cette main est énorme, effectivement, oui. on peut la ressentir comme presque menaçante.
Alors, oui.
Je ne sais pas si on peut tourner le...
Oui, ce bidule.
Ah non, on ne peut plus tourner.
On ne peut pas,
on peut tourner autour.
Donc alors, il faut tourner autour.
Mon Dieu, cette main est en effet colossale. Et d'une puissance. Ah oui, c'est la main du sculpteur, c'est la main de Dieu. Donc j'adore. On voit que quelque part, Rodin doit savoir à ce moment-là que le sculpteur, c'est Dieu.
Oui, je pense. Je pense aussi.
Et je dois avouer, même si je ne peux en aucun cas me comparer à un si grand artiste, que l'illusion d'être Dieu quand on crée, c'est une chose que je connais. Il m'arrive très souvent le matin, entre 4h et 8h du matin, quand j'écris mes pauvres petits romans, le moment où je perds pied et où vraiment je me prends pour Dieu, c'est quand même une chose qui arrive régulièrement. Je vous rassure, après ça s'arrange.
Et alors Dieu est heureux?
Oui, à ce moment-là, c'est pas mal. C'est difficile d'être Dieu parce qu'il ne faut rien perdre de sa cohérence. C'est un sacré boulot, mais c'est merveilleux. Comment vouloir un autre rôle que celui-là?
La Genèse, extrait de la Bible. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et une vapeur s'est levée de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
Allons voir Lève, oui, qui est dans la salle, qui termine le parcours du rez-de-chaussée. Elle est là, c'est ce grand bronze.
Ah oui.
Alors, il y a deux personnages monumentaux, Adam et Ève, qui ont été créés pour encadrer la porte de l'enfer. Voilà, donc ici, on a exposé Ève, donc qui est une figure en bronze, en pied, à taille réelle quasiment, qui représente une femme avec un genou fléchi et les deux bras qui se replient, sa tête enfouie dans l'un des bras. On voit assez mal le dessin de sa tête. Et puis une main, la main gauche, qui semble un peu protéger la nuque d'un coup qui pourrait venir frapper de plus haut.
Oui.
En fait, c'est Ève. Donc Rodin doit trouver un modèle,
oui,
pour cette femme, puisque Rodin travaille d'après modèle vivant. Donc
oui,
c'est toujours un grand tracas pour les artistes de cette époque de trouver des modèles. Il trouve des carnets où il remplit des noms avec des détails physiques, belles cuisses, beaux cheveux, différentes femmes qui se présentent en tant que modèles. Et il y a deux sœurs qui viennent des Abruzzes, en Italie, du nord de l'Italie, qu'il aime tout particulièrement, qui ont deux types physiques assez différents. Et l'une d'entre elles va poser pour cette Ève. Et donc, il faut imaginer tous les jours qu'elle vient dans l'atelier de Rodin. Elle se déshabille, elle prend cette pose, repliée sur elle-même, le genou fléchi. Et Rodin modèle l'ensemble du corps. Et puis il a beaucoup de mal avec le ventre.
Ah oui.
Le ventre. Le modèle revient le lendemain, il continue à travailler sur le ventre. Et puis, sur le lendemain, il continue à... La sculpture est quasiment finie. Seul le ventre échappe à son œil. Un ventre qui bouge, une ligne qui évolue.
Oui.
À son œil aussi fin de sculpteur, et au bout de quelques jours, la jeune femme lui avoue qu'elle est enceinte.
Oh.
Et donc, elle arrête de poser, et
oui,
Rodin arrête son travail à ce moment-là. Mais c'est,
oui,
c'est une très jolie histoire, parce que...
Mais oui,
que,
justement,
voilà,
pour Ève, elle
pour
a fauté. Voilà.
C'est aussi, elle est enceinte aussi de,
oui,
de l'humanité. Voilà, la femme qui représente Ève est
c'est
enceinte.
C'est terrible, cette impression. C'est poignant, parce qu'on voit la femme punie, la femme qui s'enfuit, et... C'est tellement injuste. On se rappelle bien sûr le texte de la Genèse, le texte de la chute. Et là, on en veut terriblement à Dieu, quoi. Parce que Ève a raison. Enfin, Dieu fait tout. C'est un traquenard. Il lui indique ce qu'il ne faut pas faire. Donc, évidemment, comme elle est un petit peu futée, évidemment que c'est ce qu'elle va... Et si ça se trouve, elle n'y aurait même pas pensé si Dieu ne lui avait pas indiqué. Mais comme elle est plus curieuse qu'Adam parce qu'elle est plus futée, bien sûr, elle... commet la faute et elle convainc Adam, parce que Adam est une espèce de pâte molle qui n'a pas le courage de faire les choses lui-même, ce qui fait qu'Adam après va dire « mais c'est sa faute, c'est elle qui m'a convaincue, donc comment ne pas en vouloir à Dieu et comment ne pas être du côté d'Ève qui a simplement voulu essayer la création jusqu'au bout, et évidemment qu'elle a voulu, s'il y avait cette possibilité, c'était bien pour qu'on le fasse, et qui est punie, et on sait très bien ce qui lui arrive, elle va accoucher dans la douleur, c'est affreux. »
Ça va être long.
Ça va être long et ça va arriver souvent. Vous savez, moi je dis toujours que je suis enceinte de mes livres. Alors bien sûr c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui correspond vraiment à ce que je ressens. Si on me demande où se situent mes livres en moi, ils se situent dans mon ventre. Alors je ne dis pas que je ne me sers pas un peu de ma tête pour les écrire, mais c'est dans mon ventre que je les porte.
Thank you.
est-ce qu'il existe chez Rodin un sentiment du sacré que l'art lui permet de transmettre?
Alors, un sentiment du sacré, oui, je pense, mais c'est pas quelqu'un qui a... C'est un mystique, si vous voulez, c'est un mystique de la beauté, c'est un mystique de la nature, mais c'est pas quelqu'un qui avait une foi qu'il partageait ou qu'il montrait ou qu'il... Donc le corps est sacré. On a beaucoup parlé de ce Rodin amateur de femmes. Ça l'a desservi dans une époque comme la nôtre.
C'est vrai.
Notamment en lien avec Camille Claudel ou avec des femmes avec lesquelles la relation a été compliquée. Mais il avait cet appétit du corps féminin, mais ce corps féminin était sacré. La beauté qu'il en décelait, la beauté qu'il était parfois seul à voir, la beauté d'une partie d'un corps, était pour lui sacré, je pense.
Oui.
Effectivement, ce n'est peut-être pas la figure d'Ève qui l'a intéressée, c'est sans doute ce magnifique nu féminin.
C'est vrai que ce corps est extraordinaire. Voilà, c'est pas du tout une femme mièvre, c'est une vraie femme. Elle est puissante. Justement, elle a un ventre. C'est une vraie femme.
Absolument.
Je la trouve très, très belle.
La nature était son guide. Et on voit la nature, là. On voit de quelle façon est-ce qu'il s'en est emparé. Et pourtant, il n'a pas cherché à l'achever. Alors, ni du fait de cette jeune femme qui était enceinte, mais il y a un détail qui est assez amusant dans les pieds de cette jeune femme, c'est qu'on voit encore la trace à l'arrière, tout à fait à l'arrière, quand on regarde la jambe qui est tendue. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a encore la trace de ce qui permettait à la sculpture d'être tenue au moment où il la modelait. Mais il aurait pu se donner la peine de gommer ce détail qui montre la technique.
Oui.
Et en fait, ça ne l'intéresse pas.
Et de fait, ça ne dérange pas du tout. On peut se dire qu'elle avait des sandales un peu spartiates.
Absolument. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les petites boulettes. On devine, alors que c'est une traduction en bronze, on devine les petites boulettes de terre que Rodin devait tous les jours écraser sur ce ventre d'argile pour essayer d'en comprendre cette forme qu'il ne pouvait pas attraper.
J'aime beaucoup ce ventre inattrapable, ce ventre mystérieux. Le ventre de la création. À présent, nous allons monter ce magnifique escalier pour aller au premier étage du musée Rodin, pour continuer la visite sans Isabelle. J'adore avoir le musée pour moi toute seule. Vous savez, c'est mon côté mégalomane. Ça donne l'impression qu'on habite le musée. J'entre dans cette salle du musée Rodin où il n'y a que des œuvres reliées au paradis et à la chute. C'est absolument formidable. Et c'est d'autant plus formidable qu'on n'est pas forcé de regarder. C'est ce que disait tout à l'heure Isabelle. On peut lire sans savoir, on peut ne pas savoir si tel ou tel détail appartient au paradis ou à la chute, donc à l'enfer. Et j'aime aussi cette polysémie. Pour moi, c'est le signe d'un très grand artiste, qu'on ne sache pas si telle scène est une scène de damnation ou si c'est une scène, au contraire, de félicité absolue. Ici, il y a une œuvre qui s'appelle La cathédrale. Ce sont deux mains. On ne sait même pas si ce sont les deux mains d'une même personne ou si ce sont deux mains d'amoureux qui vont presque se rejoindre. C'est pas du tout Dieu et Adam dans la chapelle Sixtine, parce qu'on est au bord, non pas de l'attouchement, mais de l'enlacement. On dirait que ça va être une espèce de ballet d'amour entre ces deux mains. C'est d'une tendresse, d'une force et d'un sacré complet. Tout à l'heure, Isabelle nous disait que ce qui était sacré pour Rodin, c'était le corps. J'adore ça. Moi aussi, je trouve que ce qu'il y a de sacré en nous, c'est notre corps. Je ne dis pas que nous n'avons pas une âme et que ce n'est pas important, bien sûr, mais quand même, la partie la plus extraordinaire de ce que nous sommes, c'est notre corps. C'est ce qui nous permet de nous rencontrer, c'est ce qui nous permet de comprendre ce monde. C'est pour ça que la sculpture est un art plus fort que les autres. Il est plus directement physique. La sculpture, c'est pas un art pour les êtres désincarnés. J'aime bien ça. Alors, ici, il y a une œuvre qui s'appelle « La main du diable ». Oh, c'est terrible, cette œuvre. Un peu difficile à comprendre parce qu'on voit un corps et on voit une main et cette main prend un corps. On ne sait pas très bien est-ce que c'est pour la porter en enfer ou est-ce que c'est pour le rejeter. C'est très, très inquiétant. On sent ce corps qui est à la merci de cette main gigantesque. Tout à l'heure, on voyait la main de Dieu qui façonnait le corps d'Ève. Ici, c'est un petit peu le pendant. Ici, ce n'est plus la main qui façonne, c'est la main de la divinité qui détruit. De penser que le créateur est double, le créateur est ce qui crée, mais le diable n'est jamais que l'autre facette de Dieu, et c'est ce qui détruit. Ça, c'est aussi une chose qui me parle, parce que je suis une créatrice au tout petit pied, mais enfin une créatrice. Donc j'ai ce pouvoir extraordinaire de créer la vie, de créer des personnages, et j'ai ce pouvoir au moins aussi extraordinaire de les détruire. Et bon, mes lecteurs le savent, je ne m'en prive pas. Le plus souvent, ça se termine mal pour mes personnages. Comment vous expliquer ? J'ai une espèce de satisfaction esthétique à faire disparaître mes personnages à la fin du livre. Je trouve que ça rend l'œuvre plus cohérente. Et puis j'aime aussi l'idée que mes personnages ne me survivent pas. Ça doit être mon côté pharaon de l'ancienne Égypte. Vous voyez, je veux être enterrée avec mes esclaves.